Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
Bonjour, bienvenue dans la réserve naturelle de Ristola-Montviso. Je suis Pier Paolo Brenna, le conservateur. Et on se trouve ici dans le vallon du Haut-Guil, donc à vraiment la tête du bassin versant du Guil dans la vallée du Queyras, qui a été classé réserve naturelle parce que ce secteur abrite un certain nombre d'espèces rares, assez précieuses pour le patrimoine naturel de la communauté locale. Et la vocation d'une réserve naturelle, c'est d'offrir un refuge à la biodiversité et créer les conditions de tranquillité maximale pour que la biodiversité puisse accomplir ses cycles naturels dans les meilleures conditions, pouvoir se perpétuer dans le temps et dans le meilleur des cas, quand ça marche vraiment très bien à l'intérieur d'une réserve naturelle, les espèces vont coloniser les espaces alentours qui sont moins protégés mais qui vont bénéficier de cet effet réserve, comme on l'appelle. Donc l'hiver, il neige. La neige se dépose sur le sol. Quand tu regardes un peu l'allure que ça a, en gros c'est des cristaux d'eau, des cristaux de glace qui emprisonnent des petites bulles d'air. L'air, c'est un des meilleurs isolants thermiques qu'on connaisse. Du coup, même quand il fait moins 30 en surface, sous 1 mètre de neige, t'as quand même une bonne épaisseur. Il fait pas franchement douillet, hein, mais il fait au-dessus de 0 degré, 2, 4 degrés par exemple. Du coup, à 2 et 4 degrés, l'eau qu'il y a sous le manteau neigeux ne gèle pas, rien ne se passe. En falaise, vu que il y a cette verticalité qui empêche l'accumulation de neige et donc l'accumulation d'isolant thermique. Quand il fait moins 30 dehors, il fait moins 30 au contact de la falaise. Du coup, l'eau gèle, c'est le phénomène de la cryoclastie, clastie de séparation et cryo du froid, du gel. Donc la cryoclastie, il y a une façon un peu plus française de le dire, c'est la gélifraction. Donc tu vois, ces phénomènes d'écroulement, de rupture de matériaux, d'accumulation, ben, on casse quelque chose pour recréer autre chose, une nouvelle conformation. Parce que dans les éboulis, du coup, plutôt que d'avoir une paroi rocheuse sur un plan, tu vas avoir plein de petites orientations d'exposition au soleil, d'exposition par rapport à l'orientation nord-sud, tout ça. Du coup, tu vas créer une belle diversité d'habitats qui peuvent être colonisés par des espèces. C'est sûr qu'il y a quand même une probabilité plus importante d'observer des phénomènes comme ça dans des roches qui, par nature, ne forment pas des blocs compacts et homogènes. On a plus de chances d'observer ces phénomènes-là dans des roches qui, structurellement, sont en feuillet, sont hétérogènes et vont pouvoir réagir, vont pouvoir permettre l'infiltration de l'eau, vont pouvoir permettre la dissolution de certains éléments minéraux par l'eau. La forme n'est pas vraiment flagrante, il y en a de plus jolies dans la réserve, mais on devine l'accumulation de matériaux qui se sont charriés là par les eaux de ruissellement et la gravité, et qui sont le résultat de l'érosion de tous les versants qu'il y a au-dessus. Donc les matériaux se détachent de la montagne, dévalent la pente, se font piéger un peu dans cette espèce de petit canyon là. Tout ça s'accumule à la sortie. Quand la pente est moins forte, du coup ça perd de la vitesse, ça reste sur place. Et ça s'appelle un cône de déjection. Donc ça montre bien un peu les dynamiques érosives qui se passent aujourd'hui et qui se passaient exactement de la même façon il y a des 500 millions d'années. T'as la grande paroi de la Taillante qui continue et tu vois que t'as une rupture de pente avec... Bon là, c'est sous la neige, mais il y a une accumulation de pierriers qui sont des morceaux de falaise qui s'est fait éclater par le gel et qui se retrouvent accumulés au bas de la pente. Et si on accélère le temps, petit à petit, ces cailloux vont, par gravité, par entraînement, par les eaux de ruissellement, dévaler davantage la pente, se retrouver concentrés dans des petits gouffres, des petits ravins, et voilà, redescendre la pente, se retrouver dans le lit principal du Guil et rejoindre un jour peut-être la mer sous forme de gravillons minuscules, quoi, ou de fragments, ouais. Sédiments, ils retournent quoi, au fond de la mer. Tous ces phénomènes géologiques, ça a un impact très fort sur le milieu de la biodiversité, les habitats, les espèces que l'on peut trouver à cet endroit-là, et qui, lors d'un événement un peu intense de ravinement, de crue, de chute de terrain, ça va complètement rebattre les cartes à un secteur donné. On peut avoir un habitat qui s'était créé depuis une petite vingtaine d'années, qui se retrouve complètement réduit à néant par un événement tout aussi naturel, mais néanmoins drastique. On peut observer une recolonisation de ces espaces-là, qui se font remanier extensivement en peu de temps, par des phénomènes naturels qui vont complètement changer l'allure de l'endroit. On a une végétation ensuite qui s'installe derrière, qui est une végétation dite pionnière, parce que c'est des essences, des espèces végétales qui ont une capacité à se développer plus rapidement que les autres dans ces milieux qui sont nouvellement remaniés. Et à une certaine échelle de temps, on peut observer la végétation pionnière qui arrive en premier, qui va ensuite laisser la place à d'autres essences et ainsi de suite, pour tendre vers l'optimum d'équilibre qui est une forêt ancienne. Quand on se retrouve au pied de la montagne et au débouché du canyon, il y a quand même de fortes chances qu'on se reprenne un événement drastique à terme. Et donc finalement, c'est un cycle qui se répète.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.